Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Ali Etovin, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Quatrième et dernier temps de notre semaine consacré à l'économie du jeu. Hier, nous avons ausculté la passion du hasard et l'imaginaire des jeux d'argent en compagnie du sociologue Jean-Michel Coste et du psychiatre Marc Valeur. Avant cela, nous avons sondé les représentations du monde qui se cachent derrière les jeux de société et les jeux vidéo et retracé l'histoire économique de la console avec William Audureau et Alexis Blanchet. Aujourd'hui, nous allons voir comment le jeu pénètre toutes les sphères de la société et en particulier le monde de l'entreprise. Si le jeu et le travail sont a priori pensés l'un contre l'autre, le premier étant supposément libre, gratuit et non productif, contrairement au second, on observe depuis la fin du XXe siècle une transposition dans l'univers du travail des mécanismes du jeu. Alors quel est le but de cette ludification et quels en sont les effets? Voilà les questions que nous allons nous poser dans l'heure qui vient. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons interroger les différentes formes de gamification du travail en compagnie de Marianne Dujarrier, sociologue du travail, professeure à l'université Paris 7 et co-directrice d'un numéro de la revue Travailler intitulé Jouer, Travailler, en compagnie également d'Emmanuel Savignac, anthropologue, maîtresse de conférence à l'université Paris 3 et auteur de La gamification du travail, l'ordre du jeu, paru aux éditions IST. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Tout jeu est d'abord et avant tout une action libre. Le jeu commandé n'est plus du jeu. Le jeu est superflu. À tout moment, il peut être différé ou supprimé. Il n'est pas imposé par une urgence physique, encore moins par un devoir moral. Ce n'est pas une tâche. Il s'accomplit en temps de loisir. Le jeu n'est pas la vie courante ou la vie proprement dite. Il offre un prétexte à s'évader de celle-ci pour entrer dans une sphère provisoire d'activité à tendance propre. Tous les observateurs insistent sur le caractère gratuit de cette activité. Élément indépendant de la vie courante, il se situe en dehors du mécanisme de satisfaction immédiate des besoins et des désirs. Bien mieux, il interrompt ce mécanisme. Il s'y insinue comme une action temporaire, pourvue d'une fin en soi, et s'accomplissant en vue de la satisfaction qui réside dans cet accomplissement même.
Bonjour Marianne Dujarrier.
Bonjour.
Alors Emmanuel Savignac va nous rejoindre dans un instant, merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait d'Homo Ludens, un essai du grand théoricien du jeu, Johann Huizinga, paru en 1938. Qu'est-ce que cette définition nous apprend et en quoi est-ce qu'elle s'oppose à la conception managériale du jeu, Marianne Dujarrier?
Alors Huizinga, comme Kaiwa plus tard, en 58, insiste sur le caractère qu'on peut appeler autotélique du jeu, c'est-à-dire qu'il a sa fin en lui-même. Or, cette définition est tout à fait discutable, puisqu'on a pu voir, notamment dans les sciences de l'éducation, que le jeu avait finalement une utilité aussi pour l'apprentissage, pour la préparation à la vie d'adulte. Et évidemment, en entreprise, on se trouve devant ce paradoxe que quelque chose qui aurait sa finalité en lui-même, deviendrait un moyen pour une autre fin, pour la productivité, ou pour la motivation au travail, ou pour la mise en tension au travail.
Alors on va voir effectivement les différentes formes que peut prendre le jeu en entreprise. Mais d'abord, ce qu'il faut dire peut-être, Marianne Dujarrier, c'est que le jeu au travail, dans un contexte ouvrier, a d'abord été un moyen de transgresser l'ordre établi.
Alors effectivement, quand on est sociologue du travail, ce qui est mon cas, on connaît bien la question du travail, enfin du jeu au travail, notamment grâce à deux Américains, Donald Roy, qui dans la fin des années 50 a écrit un très beau texte qui montre comment des ouvriers qui doivent faire un travail très très répétitif sous contrainte de quotas dans la métallurgie, pour combattre ce qu'il appelle la bête noire de l'ennui, invente des jeux, donc c'est une invention collective, hein, qui sont essentiellement ce qu'on pourrait appeler, en faisant appel à la distinction anglo-saxonne, du game, c'est-à-dire une mise en compétition, soit entre eux, soit avec l'horloge, soit contre le contremaître, et c'est un moyen en fait de combattre l'ennui, hein, que d'inventer comme ça des parties de compétition.
Et peut-être d'inventer un espace de liberté dans une certaine mesure.
En tout cas de rendre le travail supportable. Et il observe que ça accroît les cadences. Un peu plus tard, 20 ans après, un autre Américain, lui marxiste, Buravoy, va observer d'ailleurs par hasard dans la même usine le même phénomène, mais va lui donner une interprétation un peu différente, j'allais dire moins élogieuse, en disant que ce jeu finalement accroît effectivement les cadences, donc ce qu'il appelle l'exploitation, avec ce vocabulaire marxiste, et par ailleurs occulte la domination. C'est-à-dire que le jeu là n'a plus la fonction de rendre le travail supportable, mais plutôt en réalité d'accroître l'exploitation et la domination au sein du monde du travail.
Donc on voit bien que les jeux peuvent effectivement être inventés par les salariés eux-mêmes ou récupérés par l'entreprise. Emmanuel Savignac nous a rejoint autour de cette table, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour et merci beaucoup d'être là. Alors effectivement, dans cette façon que peut avoir l'entreprise d'utiliser le jeu pour motiver les salariés ou pour les former, ce qu'on constate, Emmanuel Savignac, c'est que c'est une pratique qui est déjà ancienne, dès le début du XXe siècle, on observe déjà des jeux dits d'entreprise.
Oui, absolument. Alors, ce qui fait beaucoup rire d'ailleurs les designers américains, c'est de se dire que l'Union soviétique a formé des précurseurs à la gamification, en la personne notamment d'une ingénieure soviétique, Maria Bierstein, qui va travailler à des compétitions qui vont d'ailleurs prendre le nom en premier lieu de compétitions puis d'émulation soviétique entre travailleurs à des fins d'amélioration de la productivité, mais également aussi d'élévation du niveau culturel du travailleur. On retrouvera des initiatives similaires également en Suisse, toujours dans les années 20, avec un négociant, monsieur Galliker, qui va créer des maisons de commerce fictives pour former tout type en fait d'acteurs au travail dans ces maisons de commerce, donc ce qu'on appellerait nous des jeux de simulation, mais on ne parle bien évidemment pas encore de gamification à ce moment-là.
Et puis on peut également citer les compétitions sportives organisées en France par les entreprises aussi dès le début du XXe siècle.
Dès le début du XXe siècle, alors elles se font par corporation, c'est-à-dire qu'on a des compétitions sportives entre postiers, enfin dans différents secteurs, mais là aussi, c'est pas une gamification organisée par les dirigeants d'entreprise. C'est véritablement au niveau des associations de travailleurs eux-mêmes qui développent ces émulations aussi.
Donc il y a ces exemples effectivement historiques, mais la véritable montée en puissance du jeu dans l'entreprise va intervenir plutôt dans les années 80 et 90 avec l'arrivée de nouveaux modes de management à l'heure où le désir d'être reconnu sur son lieu de travail en tant qu'individu et de s'épanouir au travail se fait plus pressant, Marianne Dujarrier.
Oui, en effet, la rencontre entre jeu et travail prend de multiples formes, en réalité. Ce qu'on a essayé de montrer dans le numéro que vous avez cité, qu'on a dirigé avec Stéphane Lelay, c'est que on a les formes que j'ai citées précédemment qui sont plutôt défensives, c'est-à-dire que c'est des moyens pour arriver à tenir un travail, ce qui ne concerne d'ailleurs pas que le milieu ouvrier. On a pu montrer qu'il était à l'œuvre aussi chez les cadres. Et alors que la gamification portée par le management lui-même et l'imposition, on pourrait dire, de règles du jeu au sein du travail. Donc c'est une création plutôt managériale que des travailleurs eux-mêmes, ce qui produit évidemment des effets assez différents. Et ce à quoi vous faites référence, c'est l'importation effectivement non plus du play mais du game, c'est-à-dire de la mise en compétition supposée fun, cool et rigolote des travailleurs entre eux sur des scores qu'ils doivent réaliser. Alors effectivement c'est assez ancien, notamment dans le champ commercial, battre des scores, etc. Mais c'est maintenant notamment avec le déploiement de la direction par objectif, une méthode très largement utilisée sous le terme un peu générique de challenge.
Alors peut-être qu'il faut faire ici un petit effort de définition. Vous avez cité la différence entre le game et le play. Il faut peut-être aussi faire la différence entre la ludification d'un côté, la gamification de l'autre, Emmanuel Savignac.
Alors en fait, effectivement, la langue française ne fait pas cette différence. Le mot jeu ne fait pas la différence qui existe dans la langue anglaise entre play et game. Plusieurs auteurs, on pense à Henriot, on pense à Winnicott aussi, on pense à Kaiwa, etc., ou à Gilles Brugère d'ailleurs, bien évidemment, font la différence entre d'une part l'attitude ludique, qui finalement ne repose sur aucune règle en particulier. C'est-à-dire, je peux jouer avec mon stylo, essayer de le faire tenir en équilibre au bout de mon doigt, et pour le coup, je jouerai, mais ça ne sera pas structurée par de quelques règles.
Ça, c'est le play.
Ça, c'est le play. Et le game, qui, lui, est un jeu, en fait, structuré. Les structures peuvent être assez légères, hein, comme dans la simulation, en fait, quand l'enfant, par exemple, joue à la poupée. Il va pour autant opérer et répondre à des règles implicites de parentalité par rapport au nourrisson, même s'il va pouvoir, au poupon, même s'il va pouvoir s'en éloigner quelque peu en jouant.
Et c'est pour ça qu'on parle de ludification, pour parler peut-être du moment où il y a un certain nombre d'entreprises qui importent des jeux et de gamification, pour parler du fait d'importer vraiment la structure du jeu et de la placer au cœur même de l'activité de travail.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'en fait le play, par exemple, c'est ce que les Nord-Américains vont appeler le fun work environment, c'est-à-dire en fait l'aménagement par des outils, des instrumentations ludiques. On pense à la table de ping-pong, on pense à des toboggans aussi installés dans certaines startups, etc., pour détendre leurs salariés, mais dans des temps finalement séparés du temps de travail, même si bien évidemment ça a une fonction au niveau de la relation de travail, hein, de la relation plutôt au travail, alors que la gamification a pour vocation de pénétrer véritablement l'autre activité qui est celle de travail via et en y insérant ces fameuses structures de jeu.
Alors on va revenir sur la gamification, mais d'abord un mot sur cette ludification, cette importation d'un certain nombre de jeux dans l'univers de l'entreprise. Quels sont à ce moment-là les effets espérés de ce phénomène, et est-ce que ça fonctionne, Emmanuel Savigna? Qu'est-ce qu'on observe à partir des années 80-90?
Alors, pour ma part, j'ai trouvé ces structures à travers une ethnographie, en fait, des startups que j'ai effectuées au tournant des années 2000, où on voyait bien que la question de l'ambiance au travail, pour des populations qui d'ailleurs étaient majoritairement jeunes, puisque je rappelle qu'à l'époque, un des frères Guillemot, patron d'Ubisoft, affichait que après 30 ans, il fallait reprogrammer les travailleurs. En fait, cette question de la bonne ambiance permettait d'entretenir des relations au sein du travail, mais qui pouvait être amical et se perpétuer au-delà aussi du travail, par effet retour à des effets de cooptation où, avant de recruter une nouvelle personne, on passait par les réseaux personnels des travailleurs, ce qui permettait d'une certaine manière un double engagement aussi, parce que quand on vous fait venir dans une structure, non seulement à travers un contrat ça vous engage, mais à travers une relation ça vous engage d'autant plus. Et cette question justement du tissu affinitaire au sein du travail, à des fins aussi de facilitation de la communication dans des logiques projets où on doit gagner du temps à travers ce fameux savoir-être relationnel pour bien communiquer autour du travail, on peut penser effectivement qu'il y a une logique en tout cas managériale, ou le fait que bon, les horaires se rallongent et que c'est toujours intéressant.
Et alors justement, c'est intéressant de voir effectivement qu'on essaye d'agir sur le savoir-être des salariés, et aussi que c'est plutôt des pratiques qui viennent des États-Unis, du Canada, et qui viennent ensuite seulement en France, Marianne Dujarrier.
Oui, ça, je ne sais pas la géographie exacte. Peut-être qu'Emmanuel Savignac, c'est ça.
Emmanuel Savignac, on observe ce passage.
Sur la circulation de ces choses-là, mais je ne suis pas certaine que ce soit une invention purement anglo-saxonne. Mais
Non, ça, je te rejoindrai là-dessus, Marianne, effectivement. Parce que, enfin, Boltanski et Chapello en parlent d'ailleurs très très bien dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, qui est vraiment un ouvrage remarquable paru à la fin de la décennie 90, sur la base de l'étude justement des crimes managériaux, où en fait, on voit une coïncidence entre le fait que, en particulier aussi en France, mais ailleurs, il y a une sorte de démocratisation de l'enseignement supérieur qui fait que les personnes arrivant sur le marché du travail vont d'autant plus renier et contrer les modèles tayloriens et fordiens et demander plus de reconnaissance au travail, plus de créativité, plus d'initiative. Donc pour le coup, ça se produit effectivement aux États-Unis, mais aussi en France, de ce fait-là.
Marianne Dujarrier.
Oui, on peut, pour poursuivre ce que disait Emmanuel Savignac, ce que je partage tout à fait, hein, voir l'introduction de la gamification comme un moyen de résoudre ce problème toujours lancinant dans le salariat. Le salariat, par définition, c'est demander à des gens de faire quelque chose pour autre chose. C'est-à-dire que l'on soit ouvrier ou cadre, hein, de réaliser un certain nombre de choses avec des finalités imposées de l'extérieur, et la question c'est comment le faire. Alors dans la grande époque fordiste, c'était très simple, c'était de l'argent contre du temps, et puis petit à petit on a eu effectivement tout l'argument des relations sociales, de la socialisation, des collectifs, etc. La promesse matérielle comme la promesse de socialisation étant s'effritant petit à petit, on est arrivé dans les années 90 à des promesses de développement personnel. personnel. Hein, c'était la grande époque de vous allez vous éclater dans votre travail, vous allez grandir, vous allez apprendre des choses. Et là, depuis effectivement, depuis 15 ans, nous sommes dans encore une autre rhétorique qui est celle de la passion et du bonheur et du fun. Hein, c'est-à-dire qu'on est encore plus loin, si je puis dire, dans la promesse que les employeurs font à leurs employés et qui a pour effet, exactement dans les start-up comme dans d'autres structures dans lesquelles on a des gens qualifiés, les mêmes effets que ce qu'on a décrit, que ce qu'avaient décrit Roy et Buravoy, c'est-à-dire une accélération de la cadence, de la productivité, du temps de travail extrêmement extensif, c'est-à-dire en réalité ce qu'on pourrait appeler avec Maud Simonet du travail gratuit, une paix sociale, c'est-à-dire qu'il est quand même très difficile de critiquer une table de ping-pong et le fait qu'on ait des boissons gratuites et un toboggan pour changer d'étage. Donc une sorte de... Au fond, ça permet, hein, dans le contrat salarial, c'est la nouvelle façon dans le contrat salarial d'obtenir une sorte de zèle, hein, de la part des salariés.
Alors on va voir effectivement les différentes formes que cela peut prendre, et notamment les jeux de rôle. Mais d'abord, pour comprendre comment l'entreprise en arrive à utiliser les vertus du jeu, il faut faire un détour du côté des théoriciens qui ont pensé le rôle du jeu dans le monde social, à commencer par Georg Simmel. Qu'est-ce qu'il a apporté à la théorie du jeu, Emmanuel Savignac ?
Alors, c'est pas un des auteurs auxquels je me réfère le plus sur cette question des théories du jeu, avec plutôt des auteurs, enfin, parce que voilà, qui font un petit peu date au niveau des game studies, puisque je suis arrivée aussi par ce côté des théoriciens du jeu, à travers des personnes comme Huizinga, comme Kaiwa, comme Brugère, comme Henriot, et puis ensuite avec toute la littérature des designers du game design, et aussi en passant par justement des personnes comme Betson ou aussi Goffman. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que tous les théoriciens du jeu vont reconnaître une fonction de développement au jeu, puisque, je dirais, des sciences de l'éducation à la pédopsychiatrie, en passant par l'éthologie, on reconnaît cette capacité à développer l'humain dans des fonctions cognitives, sociales et physiques, à travers les jeux qui mettent en mouvement, ceux qui apprennent, et puis ceux aussi qui font interagir avec autrui. Mais pour autant, ce que vont aussi poser ces auteurs pendant très longtemps sur le jeu, c'est la question que le jeu ne serait pas productif, en fait, du tout. Kaiwa le dit d'une manière assez plaisante, il va dire... c'est pas parce que un petit garçon, lui dit un petit garçon, c'est genré, mais aussi une petite fille joue à la locomotive avec un circuit de train qu'il se voue à devenir cheminot ou conducteur de train. C'est-à-dire que on va à la fois penser que le jeu développe anthropologiquement d'une certaine manière, socialement, physiquement, psychologiquement, et à la fois qu'il ne conduit à rien de précis et qu'il est donc autotélique, c'est-à-dire qu'il n'a pour seule vocation que lui-même.
Et alors, est-ce que ce paradoxe a été dépassé dans les réflexions, les pensées autour de la théorie du jeu plus récente, Marianne Dujarrier?
Alors, peut-être il faut préciser que les théories du jeu sont un champ de recherche très pluridisciplinaire et en ce sens-là particulièrement intéressant, mais complètement séparé généralement du champ du travail. Enfin, je pense qu'avec Emmanuel Savignac, Stéphane Lelay, et ceux que tu as cités, Pierre Lenel, etc., nous essayons de relier les deux, et c'était des champs quand même particulièrement séparés. Du coup, j'ai oublié votre question, pardon.
De comment la théorie avait éventuellement dépassé ce paradoxe dont parlait Emmanuel Savignac.
Oui, je pense qu'effectivement, on l'a dépassé, puisqu'on voit en permanence que le jeu est utilisé pour faire autre chose, hein, que ce soit dans l'éducation, ce qu'a cité Emmanuel Savignac, et maintenant dans le travail. Mais on le voit aussi dans la quantification de soi, avec les consommateurs. Donc le jeu, maintenant, est paradoxalement utilisé moi de façon tellement importante, hein, que moi je parle carrément de capitalisme ludique. C'est-à-dire que je pense que on est à un moment du capitalisme où le jeu est devenu vraiment un moyen de mobilisation et d'orientation des comportements des travailleurs, mais aussi des consommateurs.
Les joueurs sont des individus extrêmement optimistes et extrêmement puissants. Ce sont des gens qui pensent qu'ils peuvent changer le monde individuellement. Le seul problème, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent changer des mondes qui sont virtuels et non pas le monde réel. Voilà le problème que moi, j'essaie de résoudre. Il y a un économiste qui s'appelle Edward Castranova, qui fait du très bon travail et qui s'est intéressé aux raisons qui poussent les gens à investir autant de temps, d'énergie et d'argent dans les mondes virtuels. Il dit « Nous assistons à un phénomène qui n'est autre qu'un exode de masse vers les mondes virtuels des jeux en ligne. » Et c'est un économiste, donc il est rationnel. Pas comme moi, moi je conçois des jeux vidéo, je suis passionné. Lui il dit que c'est parfaitement logique, parce que les joueurs peuvent accomplir beaucoup plus de choses dans le monde virtuel que dans le monde réel, ils peuvent avoir des relations sociales plus fortes, ils obtiennent plus de reconnaissance, de récompenses que dans la vraie vie. Donc dans l'état actuel des choses, il est logique qu'ils passent plus de temps dans le monde virtuel. Je suis d'accord, moi-même je trouve ça tout à fait logique, dans l'état actuel des choses en tout cas. Mais ce n'est absolument pas une situation optimale. On doit chercher à faire fonctionner le monde réel comme un jeu.
Faire fonctionner le monde réel comme un jeu, voilà ce que proposait Jane McGonigal, une conceptrice de jeux vidéo américaine, lors d'une conférence TED à Vancouver en 2010. C'est l'idée, Emmanuel Savignac, d'investir dans le monde réel et notamment dans l'entreprise, l'énergie que les joueurs investissent d'habitude dans le monde virtuel.
Non seulement l'énergie, effectivement, mais aussi l'engagement, l'enthousiasme, le plaisir à jouer, le lien à autrui et aussi la joie à progresser et, comme le dit Jane McGonigal, à surmonter des obstacles dont on ne veut pas avec le plus grand des bonheurs. Ce qui l'a conduit à parler en fait du jeu comme d'un hard work et de dire qu'en fait la gamification permet de briser la réalité, c'est-à-dire de faire de quelque chose qui pourrait ne pas être que plaisant comme le travail, de rendre ce travail particulièrement exaltant, justement en important ces fameuses structures de jeu dans l'activité.
Marianne Dejarrier.
Ça me fait penser à une définition du jeu donnée par un célèbre psychanalyste, Sigmund Freud, qui disait en 1908 « Le contraire du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité ». Donc là, je pense que ce qu'on vient d'entendre va complètement à l'inverse de cette définition du jeu. C'est fondamentalement qu'effectivement, ce que pose comme question le jeu, c'est le rapport au réel ou à la réalité, selon le cas théorique que l'on prend. Parce que ce que l'on observe, c'est que ce que le jeu, par la règle du jeu qu'il impose, crée un hors-jeu, c'est-à-dire une forme d'indifférence construite, socialement construite, à tout ce qui se joue en dehors de la règle du jeu. Et donc un rapport au réel qui est complètement modifié, hein, qui crée une forme d'indifférence à ce que le jeu produit néanmoins dans le monde, même si c'est tout petit, et une très grande passion pour ce qui se joue à l'intérieur. Donc on crée vraiment un espace de passion et d'engagement dans la règle du jeu et de déréalisation de tout ce qui est hors-jeu.
Avec l'espoir qu'un certain nombre de conflits de valeurs qui peuvent exister éventuellement au travail disparaissent à travers peut-être cette déréalisation, cette virtualisation de l'univers du travail, Emmanuel Savignac.
Alors, je rejoins tout à fait Marianne Dujarrier dans ses propos justement et de cette importance du second degré et du double cadre dont parle aussi bien Betson que Goffman. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu ferait toujours référence à un cadre réel, mais pour de faux. En quelque sorte, ce serait un pour de faux où on pourrait simuler, opérer des réitérations techniques, faire quelque chose en référence à la réalité, comme dans le jeu des animaux, la morsure par exemple. On fait semblant de se mordre et on ne se mord pas tout à fait, et qui permettrait justement, à travers le jeu, de jouer sur ces deux niveaux entre guillemets de réalité, le niveau ludique, le niveau réel, et de rendre possible au sein du jeu des choses plus sensibles dans l'espace de travail, dans le cadre de référence, dans les jeux de rôle par simulation, dans les jeux de simulation pardon par le rôle que j'étudie, on voit bien que sont rendus possibles de manière indolore, je ne sais pas, mais en tout cas plus aisée à travers le jeu, la question notamment de l'évaluation, puisqu'à travers le jeu, il est comme naturel d'être évalué, d'où cette pointification-là du score, du scoring, etc. Et puis aussi de la compétition. C'est-à-dire que c'est des choses qui, dans le cas du travail, vont pouvoir en tout cas être plus questionnés, plus critiqués, plus sensibles, et qui dans le cas du jeu deviennent, ou en tout cas prennent, une pente tout à fait naturelle, entre guillemets.
Vous parlez de jeux de rôle, Emmanuel Savignac, prenant justement un exemple concret dans l'extrait que l'on va entendre. Les futurs managers d'une entreprise de remplacement de pare-brise s'entraînent à réprimander un salarié en retard et s'évaluent mutuellement.
T'as ta personne qui arrive pour la troisième fois en retard. Elle te l'a pas fait en 5 minutes, c'est sur une semaine. Donc fatalement, déjà, t'as la mayonnaise qui t'est montée tout doucement. Là tu dis, tiens, vas-y, trop fort retard, vas-y. Eh, vas-y, annonce maintenant.
On demande de faire un exercice en même temps.
Bah vas-y, fais-le.
Ok, pas de problème.
On prend. Tiens, fais 6 fois qu'il est en retard en 2 semaines.
Ok. Ok, Nicolas, la dernière fois, on s'est déjà vu. T'étais en retard, ça fait plusieurs fois, j'aimerais comprendre ton retard. On fait sur un flash peut-être même. On fait sur un flash, ok. Donc Nicolas, on s'était déjà vu pour différents retards. Ok, je vois que ça n'a toujours pas changé. Maintenant, il faudra en subir les conséquences. C'est du flash.
T'appelles ça un recadrage, toi?
Bah, on est là pour bosser, il n'y a pas de souci.
Tu punis?
Non, il n'y a pas de souci.
T'es là pour recadrer, pas pour punir.
Ok.
Un recadrage n'est pas une punition. Attention, il nous l'a bien dit tout à l'heure, Olivier.
On n'est pas de problème, on essaie de la proposer. Je me suis planté, j'assume.
Non, mais oui, bah
c'est fait court.
Ah non, on te le dit.
Donc, nos problèmes.
Nos problèmes. Voilà un extrait de La mise à mort du travail, un documentaire de Jean-Robert Vialet sorti en 2009. Que vous inspire ce jeu de rôle qu'on vient d'entendre, Marianne Dujarrier?
C'est amusant de voir qu'on fait des formations aux entretiens d'évaluation. À quoi forme-t-on lorsqu'on joue? Alors en plus, il y a deux niveaux. À quoi forme-t-on lorsqu'on forme à évaluer? Sans doute à maîtriser les techniques d'évaluation, bien plus qu'à travailler mieux ou d'améliorer les conditions de travail. Moi, ce que m'inspire cet extrait du très bon film de Jean-Robert Vialet, c'est effectivement la montée depuis les années 90 des évaluations quantitatives du travail. Rappelons qu'une quantification est toujours une réduction du réel. Réduire une personne ou son activité qui est toujours ambivalente, contradictoire, complexe à un chiffre ou deux, c'est toujours une forme de réduction et donc de violence. Et cette technique d'évaluation qui a pu être plutôt mal vécue par les salariés justement à cause de cette réduction connaît aujourd'hui un essor phénoménal avec ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire le travail à la tâche dans lequel chaque fois que vous réalisez une tâche, le consommateur vous note avec ces fameuses étoiles.
L'évaluation s'est systématisée.
C'est ça, elle s'est encore plus simplifiée parce que les étoiles, alors là, sont très très muettes sur tout ce qui s'est passé dans l'interaction. Et pour travailler maintenant sur ce sujet-là, moi ce que j'ai pu observer, c'est que certains de ces travailleurs à la tâche, notamment dans le champ du bricolage, en font eux-mêmes un jeu. C'est-à-dire que ces histoires de notation deviennent comme quelque chose de drôle, parce qu'on essaye d'avoir les meilleures notes possibles, quitte à tricher. C'est-à-dire, c'est comme dans le jeu, ce qui compte c'est de gagner des étoiles, et donc ça devient un jeu en soi.
Alors Emmanuel Savignac, ce qu'on comprend bien, et que disait Marianne Dujarrier, c'est que l'avantage que le salarié est censé tirer de cette gamification, c'est le plaisir du jeu, et ainsi c'est le plaisir qui constitue en quelque sorte une partie de la rémunération.
Alors, au niveau de la ludification, oui, à travers cette rémunération symbolique qui est gagnée à travers cette ambiance au travail, cette bonne ambiance, les salariés des startups à l'époque que j'interviewais qui me disaient, oui, c'est comme un peu la cour de récré où on se retrouve entre copains, etc. Donc, une vraie rémunération symbolique. Au niveau de la gamification, je trouve que on perd quand même un peu de point de vue le play pour ne conserver que le game. C'est-à-dire que la question de la structure, la question et la notion de progrès, la notion d'évaluation, la notion de compétition, toute cette structuration aussi de l'activité qui se retrouve notamment à travers la performance de rôle. Le fait qu'on voit bien dans l'extrait que le manager est renvoyé à un rôle qu'il a à jouer et ceci dans un rapport finalement extrêmement normé et régulé. Donc là, on s'éloigne du play pour le coup, on s'éloigne de la rémunération et pour avoir assisté à pas mal de ces jeux de rôle pour manager, je ne suis pas tout à fait certaine que beaucoup ils prennent beaucoup de plaisir et certains d'ailleurs peuvent aussi, dans certains cas extrêmes, manifester leur retrait ou leur non-participation.
Et puis on a souvent une critique de ces jeux que certains trouvent très infantilisants, notamment pour les gens qui ont des métiers dans lesquels ils n'ont pas besoin d'incitation externe pour avoir l'envie et le besoin de bien faire leur travail. C'est souvent mal vécu comme quelque chose d'infantilisant.
Et on assiste à des formes de résistance à ces techniques de management.
C'est difficile parce que si vous ne jouez pas le jeu, vous êtes exclu. C'est-à-dire que cette idée dans le capitalisme ludique, c'est qu'il faut jouer le jeu. Donc on est obligé d'être dans la compétition d'une certaine manière et on ne peut s'extraire de ce jeu-là sans passer pour un exclu, pour s'exclure soi-même des règles du jeu.
Emmanuel Savignac, sur les formes de résistance possibles qui existent, qu'on a pu peut-être observer, vous avez fait un certain nombre de travaux de terrain, à la fois en hôtellerie, à la fois dans des start-up, comme vous le disiez, qu'est-ce que vous avez pu constater?
Alors c'est vrai qu'on s'éloigne là des théories du jeu qui disent que le jeu est une activité libre et sans contrainte. Là, vraiment, on s'en éloigne radicalement parce que ceux que j'ai pu voir jouer, c'était extrêmement rarement sur la base du volontariat. C'est sous couvert de formation. Au contraire, c'est avancé aussi comme non seulement quelque chose qui permet aux travailleurs de se développer, mais également, qui lui est offert. Et puis, c'est dans le cadre du travail. Donc là, on n'a absolument pas la possibilité de s'en extraire, hormis en situation, soit par une mise en retrait, par le silence. Bon, je me souviens notamment un peu plus extrême d'une session de jeu de rôle faisant appel à du théâtre d'entreprise où une des personnes lisait ostensiblement son journal. Mais à côté de ça, d'autres participent, d'autres jouent vraiment le jeu et trouvent que finalement, pour une formation, elle est plutôt sympa, avec des acteurs, avec du rire, avec du jeu. Donc c'est plus ambivalent que ça.
Et puis il peut y avoir une certaine violence, effectivement, comme on le disait, on assiste parfois à une sorte d'habillage ludique des contraintes de temps qui peuvent exister dans les centres d'appel, par exemple. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de gagner en productivité grâce à une mise en concurrence accrue des salariés par le jeu, Emmanuel Savignac.
Alors c'est vrai qu'on ne fait pas jouer les mêmes métiers au même jeu. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur des jeux où il y a des enjeux de productivité, comme sur la question commerciale ou la gestion de dossiers, etc., dans des environnements y compris administratifs, le challenge est une forme adéquate. C'est-à-dire que cette notion de challenge, et ça rejoint une des très très fortes critiques portées sur la gamification, qui est cette notion de pointification, justement, de score, de niveau, de badge, avec quelque chose finalement qui se rapproche beaucoup de certaines pratiques behavioristes des années 50-60. Et de l'autre côté, les managers, c'est aussi des personnes dont le travail va être plus relationnel, etc. On va plus les former par le jeu de rôle, par le théâtre d'entreprise. On va vraiment adapter le jeu aux attendus du jeu.
On va voir en effet que la gamification peut exister dans les différentes strates de la société. Et on parlera notamment dans un instant des serious games, les jeux sérieux.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
On écoute Play on Player d'Amber Gris, entendez-vous l'écho sur France Culture. Emmanuel Savignac et Marianne Dujarrier sont toujours avec nous pour parler de l'usage social du jeu.
Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'un game designer, il a un petit côté totalitaire. C'est lui qui va décider de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc ça peut amener à des comportements qui potentiellement sont compliqués à assumer ensuite. Par exemple, j'ai en tête cette fameuse marque de boissons dont je tairai le nom, qui avait mis dans une gare une grosse boîte avec un écran, et l'écran demandait aux gens de danser, et si les gens dansaient bien, elle leur donnait une bouteille de boisson gratuitement. Et au début, les gens étaient un peu curieux, regardaient ça, et puis ensuite, ils se sont mis à danser. Et de plus en plus, et à faire n'importe quel spectacle de danse. Donc, pourquoi pas? Très bien. Sauf que là, c'était danser, mais qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Est-ce que si on avait encouragé les gens à se mettre des bourre-pifs, est-ce qu'ils l'auraient fait? Voilà, le problème est là.
On entendait le concepteur de jeux vidéo, Florent Morin, dans l'émission Future Mag sur Arte. C'était le 24 mai 2014. Ce qu'on entend ici, Marianne Dujarrier, c'est que le jeu est ou peut être un puissant producteur de normes.
Sans doute, puisque pour se conformer au score qu'il faut atteindre, on est prêt à transformer des comportements. C'est tout le sens d'ailleurs de la pointification dont parlait Emmanuel Savignac. Le principe du game, c'est qu'il faut accroître un score. Et pour cela, j'allais dire, tout est bon. Donc il y a une centration de l'attention, on peut relier ça à l'économie de l'attention aussi, hein, une centration de l'attention sur le score, qui amène à ne plus regarder ce qu'on est en train de faire, j'allais dire pour de vrai, dans la réalité. Donc ça crée une forme de déréalisation, c'est le principe même du jeu d'ailleurs.
Alors vous évoquez dans votre livre, Emmanuel Savignac, les Reversal Days, qui sont des journées au cours desquelles les rôles professionnels sont échangés, renversés. Alors quel est le but justement de ces pratiques qui s'apparentent au carnaval et qui semblent réaffirmer un certain nombre de normes en l'occurrence?
Alors, ce sont au départ des rites d'inversion, en fait, hein, c'est-à-dire, et aussi mimant la subversion d'un ordre, qui serait qu'en fait, par exemple, un patron d'entreprise, pendant une durée donnée, un jour, deux jours, prendrait la place de ses collaborateurs. En règle générale, du plus bas de la hiérarchie, c'est-à-dire que j'ai rarement observé le fait que le patron en question prenait la place, de cadre intermédiaire. Ce qui lance un message censé être éminemment démocratique. Vous voyez, moi aussi, voilà, il n'y a pas de ce métier. Hein. Je viens moi aussi sur le terrain faire le travail de tout le monde. Je me préoccupe de votre cas et de fait, je vais connaître au plus près ce que vous faites. À noter que dans les jeux étudiés, on a rarement l'inverse, c'est-à-dire le salarié de base qui monte faire le management. Hein, ça ne produit pas étonnamment. Donc c'est un message qui envoie un double message, un message de proximité, un message, mais aussi qui dit, ben voilà, moi je peux faire en quelques heures m'approprier votre activité, ce qui est paradoxalement une sorte de négation de l'activité en tant que telle. Il faut finalement très peu de temps pour la connaître et l'opérer. Et de l'autre côté, vous pouvez surtout pas opérer moi, mon activité à moi, qui nécessite la formation que j'ai, qui nécessite les compétences que j'ai, etc. Donc c'est des dispositifs extrêmement paradoxaux qui ont pour fonction, à la fois sous couvert de bouleverser un ordre, de bien le restaurer à la fin, puisque bien évidemment, à la fin, les lignes ne changent pas, le patron regagne son bureau, les salariés continuent de faire leur travail, et ce faisant, une emprise sur le travail d'autrui peut aussi s'effectuer, en se passant, pour certains cas, mais pas pour tous, de la médiation du travailleur en tant que tel. C'est-à-dire que le patron peut venir faire son travail en son absence, et se rendre compte des mesures qui sont à prendre sur son travail en son absence, indépendamment de, l'incorporation, ce que ça demande de connaître au niveau du corps, de la fatigue, de la routine, de la répétition, d'effectuer un travail, par exemple dans l'hôtellerie, où effectivement j'ai pu étudier ce cas de rite d'inversion.
Donc il y a une distorsion de la réalité du travail, de ce qu'il représente.
Il y a une distorsion de la réalité du travail. Et ça, Bateson le dit très bien en se référant à la différence entre la carte et le territoire. Et en disant, finalement, la carte, c'est pas le territoire. Le jeu simulant la réalité de travail n'est pas le travail.
Et alors justement, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces différentes pratiques de gamification? Vous disiez au début de cette émission, Marianne Dujarrier, qu'un certain nombre de jeux qui avaient pu être inventés à l'usine pour lutter contre l'ennui avaient permis une meilleure productivité, même si ce n'était pas forcément le but initial. Est-ce qu'on constate, en l'occurrence, une meilleure productivité de toutes ces techniques qu'on vient de raconter?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand le jeu est inventé par les travailleurs eux-mêmes pour faire face à l'ennui ou à la peur, ce qui a été décrit donc dans le milieu ouvrier, comme j'en parlais tout à l'heure, mais aussi, je tiens à le souligner, beaucoup chez les cadres, hein, ça a été décrit par Vincent de Gaulé-Jacques dès 1979, mais aussi par Christophe Dejour, Stéphane Lelay, Pascal Molinier, etc., Pierre Bourdieu aussi, même, à propos de l'Homo Academicus, hein, quand ces jeux sont fabriqués par les travailleurs eux-mêmes, en effet, ça accroît la productivité et même le temps de travail lui-même. la productivité même des jeux imposés par le management, non pas fabriqués par les travailleurs mais imposés, me semble ne pas avoir été mesurée. C'est-à-dire que si on voulait réellement savoir quelle est la productivité de tout ça, il faudrait inclure dans la productivité tout ce qu'on ne fait pas quand on joue. C'est-à-dire, si je concentre toute mon attention sur le meilleur score possible pour vendre quelque chose, par exemple, qu'est-ce que je détruis éventuellement par ailleurs dans la confiance entre collègues, dans la confiance avec le client, dans peut-être des ventes à plus long terme. Voilà. La centration, encore une fois, sur le score oblige à négliger plein de dimensions du travail qui peuvent être très performantes, notamment dans une temporalité un peu plus longue que celle du score à atteindre dans la journée ou dans la semaine.
On a particulièrement du mal, Emmanuel Savignac, en effet, à mesurer la productivité que pourraient entraîner les différentes formes de gamification.
Alors c'est vrai que tout dépend de ce qu'on entend par productivité. Au niveau des challenges, c'est certain que ça indique de manière extrêmement lisible l'élévation de niveau au niveau de la production. Maintenant, du côté des managers et de managers qui sont invités à jouer à des jeux qui ne sont pas justement des challenges, on voit bien que ce qui va être travaillé, c'est d'une part la performance de rôle de manager selon les attendus de l'organisation de travail, de ce que doit être un rôle de manager, et d'autre part, à leur niveau, ce qui va être aussi travaillé, c'est... je suis désolée, je viens de perdre un petit peu
La productivité, ce que ça pouvait représenter en termes d'effets, parce qu'on peut imaginer que si ces méthodes de gamification qui ont commencé véritablement à être mises en place dans les années 2010 continuent à être mises en place aujourd'hui, on en parle beaucoup, on peut imaginer que ça a une certaine efficacité.
Alors, oui, alors du coup j'ai retrouvé le fil, je vous remercie beaucoup. C'est la dimension de socialisation en fait. C'est-à-dire que typiquement quand les managers arrivent dans ces sessions de jeux de rôle, on ne leur fait pas co-construire ce qui est un problème au niveau de leur travail. On l'insère dans le cadre de jeu ou dans le dispositif de jeu. C'est-à-dire que les problématiques sont déjà définies par l'organisation de travail. Ce qui est un bon rôle ou un mauvais rôle, c'est ou une bonne action ou une mauvaise action, c'est défini par l'organisation de travail. Donc, on peut rattacher à cette question de la productivité, la question de la performance de rôle et la question d'une bonne socialisation ou enculturation par l'organisation de travail.
Et alors, au-delà de l'entreprise, le jeu peut être utilisé dans toutes les sphères de la vie sociale, dans l'éducation et la formation en particulier. On incite, par exemple, les enseignants à recourir au jeu dans leurs cours, pour ne donner que cet exemple, Marianne Dujarrier.
Oui, c'est effectivement, c'est même, je pense, avant que le jeu ne soit une technique de management, il a été beaucoup utilisé dans la formation et l'éducation, donc à la fois pour les enfants et pour les adultes. Alors effectivement, on a un collègue, Victor Potier, qui a étudié l'introduction de jeux sérieux, de serious games dans l'enseignement. Pour montrer d'ailleurs que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que plutôt que de faire semblant de jouer en travaillant, les enseignants, montre Victor Potier, travaillent le jeu, c'est-à-dire en réalité font plutôt des exercices à partir du jeu qu'ils n'utilisent la fonction ludique du dispositif qui est proposé.
Et en même temps, vous avez cité Gilles Brougère auparavant, il a montré que le jeu favorisait l'apprentissage chez les enfants.
Oui, alors ça c'est une vieille ancienne, on pourrait dire, de la psychologie, depuis au moins Winnicott, sur l'idée que, ou même Piaget, le fait de pouvoir expérimenter en dehors du réel, c'est-à-dire sans conséquence un certain nombre de choses, peut effectivement former des habiletés, développer l'intelligence, la relation aussi. Donc ça, c'est tout à fait démontré, je pense, dans du point de vue de l'apprentissage, notamment chez les enfants. Ouais.
Ici, nous avons un extrait du jeu où l'on peut voir quatre membres de l'équipe commerciale. Cette jauge mesure le moral des troupes, donc ils se débrouillent pas mal en ce moment. Et ici, nous simulons une rencontre entre le chef des ventes et un client. Le jeu vous permet d'apprendre en pratiquant. Nous pouvons mettre en application les compétences interpersonnelles nécessaires à la situation. Je peux essayer d'avoir un dialogue intelligent avec le client, mais je peux aussi simuler ce qui se passe si j'ai adopté la mauvaise attitude. Dans ce cas, les ventes risquent de plonger, mais la critique fournie par le jeu m'expliquera pourquoi j'ai échoué et m'encouragera à réessayer.
Damien Nolan, un expert en jeux vidéo, qui décrivait le fonctionnement d'un serious game, donc ces jeux qui en l'occurrence étaient utilisés chez un fabricant de voitures. Alors les serious games, on le disait, sont parfois considérés comme le Graal de la formation professionnelle. Est-ce qu'ils fonctionnent véritablement, Emmanuel Savignac ?
Alors, selon des auteurs spécialistes du serious game, oui, je pense notamment à notre collègue Julien Alvarez, hein, qui travaille cette question de la sensibilisation, de la formation à travers les serious games. Cela étant, je reviendrai volontiers sur cette séparation entre play et game, hein, notamment sur les fonctions de développement dont parlait Marianne Dujarrier, qui sont reconnues pour l'enfant dans un développement social, cognitif, etc. Donc ce développement anthropologique, et quand même les questions, y compris posées par Gilles Brougère, sur à quoi véritablement forme le jeu, et en particulier les serious games. Et là, ça engage un gros débat au niveau des designers travaillant sur ces serious games, sur ce qu'ils vont appeler les game mechanics, les mécaniques du jeu, c'est-à-dire ces mécaniques qui conduiraient justement à un meilleur apprentissage, à un meilleur engagement, à une meilleure coopération, mais qui s'avèrent à l'étude beaucoup plus problématiques qu'elles ne s'énoncent.
C'est-à-dire
qu'en fait, je dirais, peut-on faire apprendre à quelqu'un mécaniquement quelque chose ? Ça paraît quand même questionnant, dans la mesure où la participation même de l'apprenant, sa bonne volonté, son accord avec le dispositif, sa compréhension du dispositif, sont partie prenante de l'action même d'apprentissage.
Alors, il y a ces formations en entreprise, il y a aussi les formations dans les écoles, et notamment les écoles de commerce. Ce que vous dites, Emmanuel Savignac, c'est que le jeu, en l'occurrence, est particulièrement utilisé dans les écoles de management.
Alors, on a un collègue qui a participé justement à ce groupe de recherche, à ce réseau de recherche qu'on met en place autour de la gamification, notamment du travail, qui s'appelle Léo Touzet, qui est à Toulouse, et qui a travaillé justement sur comment certaines écoles de commerce, dont le SCP, donc l'École supérieure de commerce de Paris, est un bon exemple, a été initiée, construite sur la base du jeu, à travers son fondateur, Vital Roux, qui est également négociant, et qui va mobiliser des éléments et à la fois de ludification à travers la fête, et à la fois de simulation à travers le jeu, pour former les négociants, et donc plus tard, ces fameux étudiants sortant de l'école de commerce. C'est le cas aussi dans l'armée prusse, c'est le cas aussi des élites. On a une collègue historienne du jeu, Elisabeth Belmas, qui montre très très bien ça au niveau de la fonction du jeu de paume pour les élites 17e siècle, 18e siècle, etc. Le jeune Louis XIV se fait offrir un jeu de cartes de simulation de campagne guerrière. Donc on va passer par le jeu, effectivement, pour former les élites, y compris les élites du commerce. Et c'est ce que montre Léo Touzet à travers la fondation de ces grandes écoles de commerce et de management.
Donc plus largement, ce qu'on peut observer, c'est que peut-être la pratique du commerce en elle-même s'apparenterait à une forme de jeu. Est-ce que c'est ce qu'on peut constater? C'est que faire des affaires, c'est composé avec une part d'incertitude, et c'est cela qui en fait une sorte de jeu, Emmanuel Savignac?
Mais c'est à la fois le respect des règles, la connaissance des règles, le respect des règles, et à la fois, effectivement, savoir faire face à l'aléa. Et ça, c'est un propos assez traversant au niveau des jeux que j'étudie, c'est-à-dire former aussi par l'aléa à plus de réactivité face à des situations de crise, face à des situations aussi antagonistes, face à du hasard, et donc s'assouplir à ce niveau-là.
Alors on peut peut-être donner des exemples. En l'occurrence, l'ESSEC a choisi le jeu Cornac pour initier les étudiants à la stratégie commerciale. Il y a aussi le 21 Century Car Challenge, le défi automobile du 21e siècle. Est-ce que ce que vous avez pu constater, c'est que ces jeux, effectivement, étaient un puissant outil d'apprentissage?
Il y a une vraie proximité dans ce que montre le travail de Léo Touzet entre la fondation de ces écoles de commerce, de management, et l'utilisation des jeux, des case studies, mais aussi des jeux de simulation. Harvard a opéré cela dès le départ. Donc ce qui aussi produit des effets après pour ces personnes, je dirais, complètement socialisées avec des pratiques ludiques et qui vont les perpétuer aussi dans les organisations de travail pour qui, en fait, elles vont paraître aller de soi.
Marianne Dujarrier.
Oui, il me semble que c'est moins le commerce, même si évidemment la quantification de la vente est propice à la gamification, que la question du rôle des cadres dans le travail. Enfin, pour ma part, j'ai pas mal travaillé sur ces cadres. Ce qu'on peut voir, c'est que les cadres, hein, si vous voulez, sont dans une situation qu'on connaît bien, qu'on peut résumer comme le faisait l'amiral en disant qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc ils sont dans une situation sociale assez critique, assez délicate, hein, d'intervenir dans le travail, on va dire, des employés, des ouvriers, au nom d'un tiers qui est le propriétaire de l'entreprise. Et par ailleurs, ils sont assez éloignés hein, du travail concret lui-même. Cette situation n'est pas facile à tenir. Et ce qu'on a pu observer chez les cadres, notamment par exemple avec Valérie Boussard chez les financiers, mais aussi dans d'autres fonctions de cadres, c'est la problématique du rapport au réel. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que l'apprentissage dans ces écoles dites d'élite, des élites managériales, utilise d'entrée de jeu la déréalisation pour la formation. Et ce qu'on peut voir ensuite dans les entreprises, c'est qu'effectivement, il y a, comme pour les ouvriers, hein, le recours à un mécanisme de défense ludique pour arriver à travailler, c'est-à-dire à tenir ce métier de cadre qui paraît à la fois impossible et parfois moralement en tension. Hein. Ils vont inventer un jeu sur leur propre travail pour arriver à le faire. Donc, c'est
une perpétuation de cette déréalisation.
De ce point de vue-là, on peut dire que ces écoles-là préparent absolument, parfaitement, les cadres à aller jouer en entreprise ensuite. C'est-à-dire à continuer leur activité de manière passionnée, en étant totalement indifférents au hors-jeu, c'est-à-dire aux conséquences de leur activité.
Et alors, en quoi est-ce que cette gamification vise-t-elle à pousser les individus à se gouverner eux-mêmes, Emmanuel Savignac, comme vous le dites dans votre livre, cette idée d'une autogouvernance, on pousserait à l'autogouvernance ?
Parce qu'ils intériorisent les règles. Ils intériorisent les règles et les façons de les jouer. Et puis aussi, ce qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire justement qu'est-ce qui est une problématique, qu'est-ce qui est un vrai sujet, qu'est-ce qui n'en est pas un, qu'est-ce qui est secondarisé, qu'est-ce qui est priorisé. Donc tout ce système-là, effectivement, est importé par le jeu.
C'est ce qui explique l'apparition de toutes les applications ludiques pour perdre du poids, faire du sport, et qui s'appuient justement sur l'esprit de compétition aussi.
Alors, c'est le quantified self que travaille par exemple un chercheur du CERLIS et un de nos collègues qui s'appelle Éric Dagiral, qui effectivement travaille sur toutes les opérations de quantification de soi à travers ses performances sportives, mais aussi à travers des choses qui à la fois sont très très anciennes et qui prennent forme à travers une digitalisation, comme la question notamment des menstruations, du suivi de la grossesse, etc. Des techniques aussi intimes, hein, fortement reliées au corps.
Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le jeu crée la compétition ou peut-être la renforce, ou est-ce qu'il n'est qu'un habillage pour cacher une compétition assez rude mais qui existerait déjà, Marie-Anne Dujarrier ?
Dans la quantification de soi, c'est une compétition contre soi-même qui en réalité bénéficie essentiellement à ceux qui récupèrent les données pour en faire les usages qu'on connaît avec le big data. Vous posez la question en fait de la concurrence. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les travailleurs, entre les entreprises, entre les individus ? Aujourd'hui, oui, puisque cette concurrence qui est totalement fabriquée et maintenue existe bien. Donc le jeu pourrait rendre en fait la concurrence rigolote,
plus vivable.
N'oublions pas quand même, dans un jeu, il faut beaucoup de perdants pour faire un gagnant. C'est le principe même de la concurrence. Et donc que cet habillage ludique de la mise en concurrence généralisée entre chômeurs et travailleurs, entre travailleurs eux-mêmes, entre consommateurs, entre entreprises, effectivement tente de rendre la chose amusante, ce qui en vrai n'est pas très amusant, puisqu'il faut beaucoup de perdants, encore une fois, pour faire un gagnant.
Emmanuel Savignac ?
C'est Claude Lévi-Strauss qui souligne la force du jeu, dans le sens où il est simultanément conjonctif, il fait jouer ensemble un groupe d'individus, et à la fois disjonctif, parce qu'il les met justement en compétition et en opposition. Et il fait les deux à la fois. Et on voit bien l'intérêt que ça peut avoir, effectivement, pour une organisation de travail.
Parce qu'on voit effectivement les conséquences que ça peut avoir si ça ne fait que voiler une compétition qui existerait déjà, mais on peut aussi imaginer qu'au contraire, le jeu pourrait avoir une possibilité de proposer un contre-modèle en soi. Est-ce que le jeu est idéologique ou est-ce que c'est seulement son usage qui peut l'être, Emmanuel Savignac ?
Alors, il y a eu beaucoup de discussions, notamment en anthropologie, pour approcher le jeu du rituel. Ce qui fait quand même la différence entre le rituel et le jeu, malgré le fait que voilà, les deux sont une séquence d'événements, traversés par du symbole, c'est que le jeu a une fin incertaine. On ne sait pas qui gagne, on ne sait pas qui perd, on ne sait pas tout à fait comment il va s'effectuer. Alors que le rituel, lui, est parfaitement, à ce niveau-là, régulé. Donc, c'est pas si clair, cette question-là, justement, de la conformation par le jeu.
Marie-Anne Dujarrier, un dernier mot peut-être sur ce capitalisme ludique dont vous nous parliez tout à l'heure.
Peut-être parler d'une des dernières formes du lien entre travail et jeu, c'est il s'agit des gamers, qu'a très bien décrit Mathieu Koch notamment, hein, qui sont des joueurs sur jeux vidéo qui monétisent l'enregistrement qu'ils font de leur jeu. Donc, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, ça devient un travail. Il y a beaucoup de contraintes pour arriver à faire ça. Il faut jouer longtemps, il faut jouer bien, il faut répondre au chat en même temps, etc. Donc, on observe que maintenant, jouer à des jeux vidéo en ligne peut devenir un travail. Donc, on a encore une autre forme de couple travail et jeu ici qui émerge.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le 26 février dernier, le Premier ministre et la ministre du Travail affirmaient qu'un chômeur sur cinq gagnerait plus au chômage qu'en travaillant.
Absolument, une information reprise depuis par de nombreux membres du gouvernement et de la majorité. Or, celle-ci relève pour le moins d'une forme de torsion du réel, habilement mobilisée par l'exécutif pour légitimer sa réforme à venir de l'assurance chômage. Il faut dire que le gouvernement a pour objectif de tailler dans les dépenses liées à l'assurance chômage afin d'effectuer 4 milliards d'euros d'économies en 3 ans. L'une des principales pistes examinées pour y arriver est ainsi de diminuer les allocations journalières versées aux salariés les plus flexibles et les plus intermittents, les plus précaires aussi. Le meilleur moyen de faire accepter cette réforme reste alors de montrer que ces travailleurs ponctuels sont des privilégiés qui profitent des largesses d'un système par évidence trop généreux. Alors que les négociations avec les partenaires sociaux viennent d'échouer, le gouvernement adopte alors une stratégie beaucoup plus offensive et commence à évoquer ce fameux chiffre de 20% de chômeurs qui toucherait une allocation supérieure à la moyenne de leurs revenus.
Or, ce chiffre est pour le moins contestable.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui explique le sociologue spécialiste du travail, Mathieu Grégoire, qui qualifie cet indicateur d'un chômeur sur cinq de fausse information. En effet, les chiffres mobilisés par le gouvernement s'appuient sur des données datant de 2015 à 2017. Or, les règles ont changé en 2017 pour réduire les allocations versées aux salariés les plus intermittents. Pour le sociologue, ce chiffre relève surtout d'une forme de manipulation statistique assez troublante. Un article de Mediapart sur le même sujet nous explique ainsi que pour arriver à ce résultat, le gouvernement a choisi de comparer des indicateurs absolument incomparables. L'exécutif a ainsi utilisé d'un côté la moyenne mensuelle des salaires touchés pendant l'ensemble des mois travaillés. Peu importe que durant ces mois, la personne ait travaillé une seule journée ou 20 jours. Ce chiffre a ensuite été comparé au montant de l'allocation chômage versée aux demandeurs d'emploi pendant un mois complet. Or justement, les deux périodes n'ont rien à voir. Si un de ces travailleurs intermittents a travaillé en tout et pour tout l'équivalent de 4 mois, il ne sera indemnisé ensuite par Pôle emploi que pendant 4 mois.
En clair, si un salarié n'a travaillé que 4 mois sur une année, il faut aussi prendre en compte les périodes où il n'a rien touché du tout.
Exactement. On comprend aisément que les chiffres ne seront alors plus les mêmes. L'UNEDIC a d'ailleurs adopté ce mode de calcul bien plus logique et ne trouve alors que 4% des allocataires qui toucheraient effectivement plus au chômage qu'en travaillant. Et pour cause, le système même de l'assurance chômage a été élaboré pour qu'il soit plus avantageux de travailler que de chômer. Pourtant, l'illusion ne s'arrête pas là. Le sociologue Mathieu Grégoire explique que le gouvernement, pour arriver à ce chiffre, s'est servi d'une autre incongruité statistique permettant d'attribuer à ces travailleurs intermittents des salaires artificiellement bas. Un salarié travaillant 6 mois d'affilée pour 6 000 euros, par exemple, représente en moyenne une moyenne de 1 000 euros par mois. Logique. Mais le même salarié alternant chômage et travail avec des contrats débutant le 15 du mois serait alors considéré comme ayant travaillé pendant 12 mois et se verrait attribuer une moyenne mensuelle de 500 euros seulement. Une absurdité logique pourtant allègrement reprise par le gouvernement, un tour de passe-passe économique et statistique pour valider sa propre politique qui, ce faisant, réactive ce vieux mythe de l'opposition entre les travailleurs qui se lèvent tôt et ces vilains assistés qui préfèrent se prélasser plutôt que de travailler.
Satisfied, you were satisfied by the game.
Merci beaucoup Emmanuel Savignac et Marianne Dujarrier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On écoute Player du groupe René Nurse et je rappelle vos ouvrages, Emmanuel Savignac, La gamification du travail, l'ordre du jeu paru aux éditions East et Marianne Dujarrier, Le management désincarné à la découverte. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast et on vous attend également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.